Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Theresa May rencontre le leader travailliste Jeremy Corbyn ce soir pour sortir de l'impasse du Brexit. La première ministre britannique n'a toujours pas de majorité au Parlement. Dossier dans ce journal avec Antoine Gignot à Londres et le commentaire de notre invitée Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique. En France, l'hommage de la nation aux soldats tués au Burkina Faso. Aux Invalides, Emmanuel Macron a salué l'action des militaires français engagés contre les djihadistes au Sahel. Le reportage de Steven Gouaillet. En Italie, nouvelle tension entre Matteo Salvini et le Vatican. Le ministre italien de l'Intérieur critique la dernière initiative de l'aumônier du pape à un cardinal polonais qui est allé rétablir l'électricité dans un bâtiment squatté par des familles pauvres. La correspondance à Rome de Mathilde Imbert. Theresa May cherche toujours une majorité pour faire adopter au Parlement son accord sur le Brexit. La première ministre britannique reçoit ce soir le chef des travaillistes Jeremy Corbyn, avec l'espoir peut-être que le Labour puisse lui apporter les voix qui lui font défaut à Westminster. On retrouve à Londres notre correspondant Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, que sait-on de cette rencontre entre Theresa May et Jeremy Corbyn? Y a-t-il des résultats concrets?
Pas vraiment, non. La vérité, c'est qu'à droite comme à gauche, on n'attend plus grand chose de ces discussions. Les travaillistes expliquent ce soir qu'il s'agit avant tout de garder le contact pour continuer à discuter avec Theresa May. Le problème, c'est que la première ministre britannique est de plus en plus contestée au sein de son propre camp. 14 grandes figures du parti, anciens ministres ou membres du gouvernement, ont signé dans le Times une lettre pour lui demander de renoncer à ces discussions, d'arrêter de chercher un terrain d'entente avec Jeremy Corbyn. Les travaillistes, disent-ils, veulent une union douanière. Nous n'en voulons pas, ce n'est pas conciliable. Près de 3 ans après le référendum, la classe politique britannique n'arrive donc toujours pas à se mettre d'accord et la première ministre en fait les frais. Elle est au plus bas dans les sondages. 73% d'opinion défavorable, c'est un record. Theresa May sacrifiée, guillotinée sur l'autel du Brexit, c'est même l'image du moment. Le festival de Weston-super-Mare vient de commencer dans le sud-ouest de l'Angleterre avec des sculptures sur sable. La plus remarquée montre la première ministre engluée dans un morceau de plage.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci. Invité de ce journal, Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne-Nouvelle. Bonsoir.
Bonsoir.
Pauline Schnapper, certains cadres du Parti conservateur souhaitent désormais que Theresa May donne une date pour sa démission. La première ministre britannique a-t-elle encore les moyens de résister à la pression de ses amis politiques ?
Ah ben, ça devient de plus en plus difficile, ça c'est clair. Toute la droite du parti, donc les pro-Brexit les plus radicaux, derrière des gens comme Boris Johnson ou Jacob Rees-Mogg, la presse de démissionner, ils sont persuadés que l'impasse actuelle est due à l'incapacité de la première ministre de trouver des solutions et surtout de sortir, et même sans accord, de l'Union européenne. Donc, et puis bien sûr, le résultat des élections locales où le Parti conservateur s'est effondré et les sondages sur les prochaines élections européennes qui vont dans la même direction donnent à ces conservateurs-là, évidemment, un poids qui fait qu'il devient de plus en plus difficile à Theresa May de résister.
Et si Theresa May démissionne, il y aura forcément de nouvelles élections législatives au Royaume-Uni ?
Ah non, pas du tout. Si elle démissionne, mais je ne suis pas du tout certain que ça arrive, ça finira par arriver, mais peut-être pas tout de suite. Si elle démissionne, il y aura une élection interne au Parti conservateur. Il n'y aura pas du tout forcément d'élection législative. C'est en tout cas ce que souhaitent ces conservateurs-là qui veulent la remplacer. Ils veulent pas du tout d'élection législative qu'ils risqueraient de perdre.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, les élections européennes s'annoncent catastrophiques pour les conservateurs selon les derniers sondages. Il faut s'attendre à une victoire des eurosceptiques avec le Brexit Party, le parti de Nigel Farage?
Oui, c'est en tout cas ce que nous disent les sondages, qui le donnent très très en avant, enfin à plus de 30%, ce qui pour un parti qui n'existait pas il y a quelques mois est quand même tout à fait étonnant. Mais on est vraiment dans un contexte très particulier puisque ces élections n'auraient jamais dû avoir lieu, d'une part. Et puis, d'un autre côté, on voit que les deux principaux partis ont perdu beaucoup de crédibilité dans cette affaire du Brexit et que les partis qui militent clairement contre le Brexit ont été incapables de se mettre d'accord et se présentent en ordre dispersé. Donc on a des nationalistes écossais, les libéraux-démocrates, les verts, le nouveau petit parti créé en février par des gens qui ont quitté le Parti conservateur et le Parti travailliste, tous ces gens-là vont se présenter en ordre dispersé. Et donc, évidemment, ça donne une visibilité énorme à ce Brexit Party qui, lui, est uni.
En plus, ces élus qui partiront au Parlement européen, si ça se trouve, ne siégeront jamais à Strasbourg ou Bruxelles.
Exactement, ou siégeront un mois, trois mois, six mois maximum. Donc, c'est évidemment, c'est pour ça que je disais que c'est une élection très particulière, pour laquelle beaucoup de gens ne vont pas se mobiliser, à commencer par le Parti conservateur qui fait même pas campagne, qui n'a même pas de programme pour ces élections européennes. Donc il sera quand même difficile d'en tirer trop de conclusions sur le plan national et d'ailleurs sur le plan européen. On risque d'avoir des résultats tout à fait étonnants avec les deux principaux partis traditionnels qui seront laminés.
Pauline Schnapper, il y a tout de même un paradoxe. Cet interminable Brexit ne semble pas nuire à l'économie britannique. Le taux de chômage est tombé à 3,8% au premier trimestre, son plus bas niveau depuis 45 ans. Comment vous expliquez ce bon résultat ?
Alors, il faut bien voir que le chômage n'est pas le problème de l'économie britannique, et ce depuis des années. Le problème de l'économie britannique, c'est celui des salaires bas, c'est celui des inégalités très fortes, notamment des inégalités régionales, c'est celui de la faible productivité et c'est celui des investissements étrangers en baisse. Mais dans le même temps, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, le chômage reste très très faible. Il n'est pas difficile de trouver du travail au Royaume-Uni, il est difficile de trouver du travail bien payé au Royaume-Uni. Et c'est ça le principal problème aujourd'hui.
Et de ce point de vue-là, les indicateurs économiques ne sont pas bons au Royaume-Uni aujourd'hui ?
Non, si on regarde, enfin ils sont en tout cas moins bons qu'ils ne le seraient sans cette saga du Brexit, c'est-à-dire que si on regarde le taux de croissance, il est maintenant plus faible que celui de la zone euro, alors qu'il a longtemps été plus élevé. Et je vous dis, c'est surtout les investissements... En général, investissement par des entreprises britanniques et investissement étrangers qui sont en net recul à cause de l'incertitude liée au Brexit. Donc ça n'a pas d'effet immédiat sur notamment sur l'emploi, mais à terme, si cette incertitude devait se prolonger ou si le Royaume-Uni devait finalement sortir sans accord de l'Union européenne, ce sont des faiblesses qui risqueraient de coûter cher.
Justement, on peut imaginer que l'économie britannique n'a pas forcément les moyens de résister à un Brexit dur.
Ah ben c'est ce que nous disent tous les économistes en tout cas. L'économie britannique dépend énormément des échanges avec l'Union européenne. La moitié de son commerce se fait avec l'Union européenne à peu près. Et donc on peut imaginer que l'instauration brutale de contrôles douaniers par exemple, ne serait-ce que cela, aurait des conséquences immédiates sur l'économie.
Pauline Schnapper, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Et puis on vient de l'apprendre, la première ministre britannique Theresa May soumettra à nouveau l'accord du Brexit au vote du Parlement britannique dans la semaine qui débutera le 3 juin prochain. La France a rendu ce matin à Paris un hommage national au commando de marine Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello, tué la semaine dernière au Burkina Faso en libérant 4 otages. Des milliers de personnes ont d'abord salué le cortège funéraire lors de son passage sur le pont Alexandre III. Et puis ce fut la cérémonie aux Invalides, l'occasion pour le chef de l'État de défendre l'action des soldats français dans la guerre contre les djihadistes au Sahel. Le reportage de Steven Goyer.
En évoquant les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello, Emmanuel Macron a plusieurs fois parlé de héros, d'exemples à suivre, du sens du sacrifice, sans oublier ceux qui sont toujours mobilisés.
Maître Cédric de Pierrepont, maître Alain Berton-Cello, si nous sommes réunis aujourd'hui devant vos dépouilles drapées des couleurs de la France, c'est pour dire aussi notre solidarité avec vos frères d'armes. Ceux qui, des groupes commandos comme des autres, étaient avec vous au contact de l'ennemi et à qui nous pensons. Plus particulièrement ce jour, à tous vos camarades des forces spéciales qui exposent si souvent leur vie, à tous ceux de l'opération Barkhane, engagés dans les dunes du Sahel. Et nous sommes là pour affirmer avec toute l'énergie que donne la rage de la tristesse que nous ne céderons rien des combats pour lesquels vous vous êtes engagés et avez donné votre vie.
Devant les Invalides, ils étaient venus nombreux pour voir le convoi funéraire, la cérémonie sur écran géant, des passants, des familles de militaires ou même d'anciens militaires comme Eric qui a semblé apprécier le message de soutien adressé.
Ah, c'est remarquable, remarquable, c'est le discours d'un chef. Il a parlé en tant que chef, chef de surcroît, chef des armées et de l'engagement. Et ça, je crois que ce sont les deux principales directions.
Pas sûr pour autant que cela suffise, pour Éric en tout cas, à éteindre la récente polémique.
La route est encore longue, parce que avoir deux commandos, je dirais même pour aller délivrer des touristes, c'est cher payé.
Emmanuel Macron qui a également assumé l'intervention en question en évoquant une mission périlleuse mais nécessaire.
Steven Goyer aux Invalides. Et pendant ce temps-là, les massacres de chrétiens attribués aux djihadistes continuent au Burkina Faso. Quatre catholiques qui participaient à une procession ont été tués hier à Zimtega dans le nord du pays. Les assaillants ont également brûlé la statue de la Vierge brandie par les fidèles. Dimanche, l'attaque d'une église toujours dans le nord du Burkina Faso avait fait 6 morts dont le prêtre. Fin avril, 6 fidèles protestants dont un pasteur avait été tué dans la même région. En Italie, le ton monte entre le populiste Matteo Salvini et le Vatican. Le ministre de l'Intérieur n'a pas du tout apprécié la dernière initiative de l'aumônier du pape François. Le cardinal polonais Konrad Krajewski est allé lui-même rétablir l'électricité dans un bâtiment squatté à Rome. Matteo Salvini y voit un affront à la police italienne qu'il dirige. Un contentieux de plus entre le chef de la Ligue et le pape François. Le souverain pontife accusé par les populistes italiens de défendre systématiquement les migrants. La correspondance à Rome de Mathilde Imberti.
L'image, certes, n'a rien de banal. Un monseigneur qui de lui-même va briser les scellés de la police dans un bâtiment occupé du centre de Rome pour rétablir l'électricité à 150 familles qui ne payent pas leurs factures. On l'appelle le Robin des Bois du Vatican. Le pape François lui a confié la charge d'aumônier. C'est lui, par exemple, qui distribue des couvertures aux sans-abri de la place Saint-Pierre. Dans le cas précis, les impayés s'élevaient à 300 000 euros. Qu'importe, j'assume les conséquences, a déclaré monseigneur Krajewski. Geste d'humanité pour certains. Un geste incompréhensible pour le chef des policiers, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Soutenir une occupation illégale, cela envoie toujours un mauvais signal. Chacun fait ce qu'il croit bon. Mais moi je suis ministre de l'Intérieur, je garantis l'ordre et le respect des règles. Si quelqu'un au Vatican veut bien régler les factures de tous les Italiens, alors qu'ils nous donnent leurs coordonnées bancaires, je les transmettrai à qui de droit. Dans ce pays, des tas de gens ont du mal à payer leurs factures.
Une confrontation à distance entre Matteo Salvini et le Vatican. Le pape François, d'ailleurs, n'a toujours pas invité le turbulent ministre de l'Intérieur italien à quasiment un an de son arrivée au pouvoir. Une prise de distance qui ne passe pas inaperçue, même si le pape, fin politique, se garde bien de nommer le patron de la Ligue lorsqu'il critique les politiques de fermeture à l'égard des étrangers en Europe.
Mathilde Imberti, correspondante en Italie. Retour en France avec le procès pour fraude fiscale des époux Balkany, en l'absence d'Isabelle Balkany, toujours hospitalisée après sa tentative de suicide. Les avocats du couple ont vu leurs différents recours rejetés et le tribunal correctionnel de Paris a donc débuté aujourd'hui l'examen du premier dossier qui vaut aux Balkany un procès. Patrick et Isabelle Balkany sont accusés d'avoir soustrait au fisc plus de 4 millions d'euros. Le reportage d'Antoine Marette.
Le président du tribunal énumère d'une voix monocorde les éléments du dossier. Les témoignages évoquant de très importantes quantités d'argent circulant chez les Balkany, des liasses de billets de 500 euros dans la coiffeuse de madame et dans les poches des costumes de monsieur. C'est ainsi que les Balkany réglaient une partie de leurs dépenses, dont la rémunération d'employés de maison. Après la lecture interminable du rapport, Patrick Balkany prend la parole. Il veut lire des lettres écrites par sa femme. Elle y évoque ses pensées suicidaires, un déferlement médiatique relayé par les réseaux sociaux, les dizaines de messages d'insultes reçus chaque jour, parfois clairement antisémites. Avant d'interrompre l'audience, le président demande à Patrick Balkany s'il compte faire valoir son droit au silence. « Sûrement pas », répond le maire de Levallois qui ajoute « Après tout ce que j'ai entendu, vous voudriez que je fasse valoir mon droit au silence ?»
Bien entendu, je vais répondre aux questions. Je ne peux pas accepter ce que j'ai entendu aujourd'hui. On est en train de me taxer, par exemple, sur la villa de Marrakech. La villa de Marrakech ne nous appartient pas. On l'a dit au juge, on a démontré que ce n'était pas notre villa. On sait que c'est la villa d'Al-Jaber. Point.
Mohamed Al-Jaber, riche homme d'affaires saoudien, les enquêteurs ont établi que c'est lui qui a payé cette villa à Marrakech au moment où il négociait un projet de tour jumelle à Levallois. Mohamed Al-Jaber doit comparaître à partir de la semaine prochaine pour corruption active.
Antoine Marette qui suit pour France Culture le procès des époux Balkany. Le temps demain ressemblera à celui d'aujourd'hui, ensoleillé partout, sauf sur le sud-est où le ciel sera pluvieux, de la Provence à la Corse. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 9 degrés du nord au sud. Les maximales évolueront entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.